If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Soraya Jemni Wagner et Maxime Lyotard. Bonjour Soraya et Maxime.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes associés et à la tête de l'agence d'architecture intérieure, Lyotard and the Queen.
Tout à fait.
J'adore. On va tout de suite. Pourquoi Lyotard and the Queen?
Parce qu'on voulait quelque chose qui change, qui sort des sentiers battus, quelque chose qu'on ne voit pas dans le milieu de l'architecture d'intérieur, qui est beaucoup plus en général traditionnel, où c'est plutôt le nom et le nom de famille de la personne, de l'archi, ou alors un nom un peu plus, je sais pas, quelque chose de où on ne comprendrait pas le sens. Là, c'est vrai que c'est très... C'est très direct,
accroche, c'est très accrocheur. C'est Maxime, hein, on va te rendre quand même justice. C'est toi qui es arrivé avec cette idée au moment où on se lançait dans l'envie de relancer un studio tous les deux. Et puis c'était génial, c'était rock'n'roll. Au départ, on nous l'a fortement déconseillé. Et puis on s'est dit qu'on allait faire comme on voulait.
Exactement, ouais.
Vous avez bien fait. Vous avez bien fait.
Puis au final, on a eu des clients qui nous ont suivis, donc tout va bien.
Oui, mais justement, c'est, je crois, la preuve d'une certaine créativité.
J'espère.
Donc, l'architecture intérieure, c'est beaucoup une histoire de goût, en tout cas de ressenti. Alors, on va commencer par des questions sur le goût, mais l'autre goût. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Vous préférez commencer, Soraya, Maxime, comme vous voulez.
Alors, moi, je peux commencer. Je pense que mes parents, ils m'ont toujours emmené dans les restos depuis que j'étais tout petit. Déjà à 6 ans, même, on allait dans des restaurants plutôt gastronomiques. J'ai toujours mangé comme eux. Donc, j'ai tout de suite été habitué à la grande nourriture. Donc, j'ai eu le palais qui a été très vite adapté à ça. Et en même temps, comme je viens d'Annecy et de Haute-Savoie, c'est vrai qu'on a une culture gastronomique assez développée et on a le fromage. Donc depuis tout petit, je mange du fromage. Mon grand-père m'a fait manger beaucoup de fromage et j'adore ça. Donc moi, pour moi, un verre de vin et du bon fromage, déjà, c'est la base de tout.
Bon alors, on a les mets préférés. Un souvenir gustatif?
Et un souvenir gustatif, ce serait le gâteau de semoule de ma grand-mère. Qui est un peu parti avec elle, parce que c'est plus du tout quelque chose qui se fait. Et j'en ai plus jamais mangé depuis, mais c'est vrai que j'adorais ça. C'était, donc c'est alors, un très grand souvenir.
La transmission, bon souvenir. Ouais, dans la transmission. Et c'est pour ça qu'il faut toujours apprendre les recettes.
Nous sommes bien d'accord. Mm-hmm. Je tâche de le
c'est
faire.
Vrai.
Ouais. Moi, j'ai le souvenir d'un pain d'épices extraordinaire.
En plus, c'est pas facile,
ouais.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le pain d'épices.
Je l'ai fait une fois, mais après, je ne l'ai jamais refait. La recette a disparu dans les déménagements. Et voilà. Mmh. Alors, et vous, Soraya? Je suis sûre que vous avez des...
Alors, j'adore les plaisirs de la table. C'est une grande passion. J'ai une grande passion. Ce n'est pas hyper politiquement correct, parce que ça a un certain coût. Mais de temps en temps, les plaisirs de la table, ça fait partie des plaisirs que je m'octroie, que j'essaie de transmettre à ma fille d'ailleurs. Et j'ai une passion pour la haute gastronomie française, les étoilés, certains étoilés Michelin. Je trouve ça merveilleux. Il y a Alexandre Mazia à Marseille, que je trouve vraiment incroyable, notamment le Quai à Paris. Il y a vraiment des goûts qui me transportent. Et pour mes mets préférés, Ouais, je rejoins assez Maxime dans les choses assez simples, ce qui est assez ambivalent, mais pour un bon fromage, une bonne charcuterie et un bon vin. Et en souvenir gustatif, du coup là où on boit pas beaucoup de vin, mais j'ai des origines tunisiennes et moi le souvenir que j'ai qui m'émeut assez, c'est le couscous au coin et au mérou que faisait ma tante, qui est une spécialité du sud tunisien, et je trouve je trouvais ça incroyable, cette alliance de sucré salé. Voilà, c'était merveilleux.
Ici, c'est inédit.
On n'a jamais
entendu de parler. Super. On va partir à la recherche de ce couscous.
Écoutez, faites-vous plaisir. Je ne crois pas qu'ici, faudrait voir d'ailleurs, je ne sais pas si dans les restos tunisiens à Paris ou ailleurs, ils le font, mais en tout cas, c'est une spécialité coin mérou. Et c'est génial.
Bon, on a l'eau à la bouche déjà. Alors, Lyotard on the Queen, ou LATQ, vous le dites comme ça?
Oui, tout à fait.
Est né en 2020 de votre nouvelle association, Maxime. Alors, vous êtes architecte d'intérieur et designer diplômé de Penningen. Et vous, Soraya Gemni-Wagner, alors de votre côté, vous êtes autodidacte et experte dans le domaine du luxe. Peut-être qu'on l'a déjà compris. L'agence compte aujourd'hui à son actif les restaurants parisiens Bébé, Perruche, La Seine, la Môme Monte Carlo, l'hôtel Maison Palmier et de nombreuses résidences privées. Votre agence est située dans le quartier, à Paris, c'est-à-dire 89 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 11e. On va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture, d'intérieur? Et quelles ont été vos études? Qui veut commencer?
Alors, je peux commencer. Alors, au départ, c'est vrai que je voulais faire un métier artistique. J'aimais beaucoup la mode, le cinéma, tout ce qui était un peu de paillettes. Et après, j'ai été vers quelque chose de plus concret. Je viens d'Annecy, j'ai fait un bac S. Tout ça avec la pression qu'on peut avoir à ce moment-là où il faut faire S, il faut faire de l'archi et pas de l'archi d'intérieur. Donc, je me suis mis un peu cette pression. Et pour moi, il fallait partir à Paris. Déjà, j'habitais plus à la campagne et j'avais besoin de ville pour m'épanouir et pour faire ma vie, quoi. Donc, je suis parti à Paris et j'ai fait des concours d'archi pour entrer dans les écoles d'archi. Et je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas, que je voulais plutôt travailler dans le détail et faire de l'architecture d'intérieur. Donc, du coup, je me suis tourné vers Penningen. Pourquoi Penningen? Parce que c'est une école qui, à contrario des autres écoles, propose de rentrer en première année. Il n'y a pas de concours d'entrée. Tout le monde peut rentrer en première année à Penningen. En revanche, il y a un écrémage qui se fait à la fin de la première année et on peut montrer ce qu'on est capable de faire et pas être jugé sur un simple parcours d'écolier ou un bac, en fait. Donc, ça, je trouvais
d'autant
ça intéressant.
D'autant que les créatifs ne sont pas toujours très scolaires.
Exactement. Et puis, en plus, comme c'est dur de juger quelqu'un sur son parcours et sa future carrière en une journée, en fait. Juste avec un seul concours ou une seule question. Je trouve ça très dur de faire ça. Donc, du coup, je suis rentré à Penningen. J'ai fait les 5 ans d'études. Donc, très, très dur. C'est une école très dure. Mais on nous forge.
La première année est extrêmement dure.
Extrêmement dure. Du coup, on nous apprend le monde du travail. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Du coup, on devient assez dur et assez performant, on va dire. On arrive à encaisser les épreuves de la vie. Et en tout cas, voilà pourquoi j'ai fait ce métier. Et c'était vraiment, je pense, c'est venu avec tous les détails et tous les lieux que j'ai pu visiter depuis que je suis petit, avec mes parents, tous les voyages que j'ai pu faire. Ça m'a vraiment donné envie de faire ce métier, quoi.
Vos parents n'étaient pas dans le métier, en fait.
Pas du tout. Ouais. Pas du tout dans le métier, mais bon, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais ma mère adorait ça. Oui. Du coup, elle m'a baigné dans ce monde-là. On décorait notre appartement. On avait une maison de campagne. Elle aimait faire des travaux, tout le temps changer. Donc voilà, j'ai été dans ce milieu-là, même s'il ne travaillait pas dans le milieu de l'architecture.
Oui, c'était exercé à titre privé.
Voilà, exactement.
Et vous, Soraya?
Pour ma part, le parcours est un petit peu différent et en même temps, c'est pour ça qu'on s'entend si bien, je pense. Parce qu'on a plein de points communs alors qu'on a un parcours de vie qui est pas forcément, même pas du tout identiques. Moi, je suis issue d'un milieu plutôt très simple, une jeunesse dans des banlieues, villes nouvelles, et puis après dans des quartiers, voilà, beaucoup plus populaires, comme on dit dans un joli langage. Donc pas du tout dans le milieu du beau, même si ma mère aimait bien quand même l'esthétique, les jolies choses, notamment elle aimait bien les beaux parfums, et puis elle était assez élégante, elle se vernissait les ongles. Donc pour faire un petit peu, j'étais attirée par... quelque part l'opposé de ce que j'avais sous les yeux, même si on peut voir des très belles choses et j'ai eu des expériences qui m'ont forgé dans le quartier.
Vous voulez pas en parler ?
Mais il y en a eu plein parce que le parcours a été un peu chaotique et la vie familiale un petit peu bousculée. Donc il y a eu Créteil, il y a eu Val-de-Fontenay, Recréteil. Voilà, c'était un petit peu. On a quand même pas mal bougé, mais toujours voilà dans ce type d'environnement. Et en revanche, il y a quelque chose qui est réel. J'ai toujours été attirée par le beau. Donc après un parcours scolaire un peu chaotique et l'obtention d'un baccalauréat par littéraire par miracle, parce qu'en revanche j'ai toujours aimé lire et beaucoup apprécié la poésie, mais de façon complètement personnelle, des attraits pour la musique, mais je venais d'un milieu où, comme on se dit souvent avec ma sœur, on n'a pas vraiment eu le droit de rêver. Donc c'est dur de s'autoriser à aller vers quelque chose de créatif, parce qu'il faut rester dans le concret, il faut gagner de l'argent. Donc je me suis pas trop autorisée à ça, mais en revanche, quand après le bac, j'ai pas fait d'études, j'ai fait une année de droit complètement chaotique, qui m'intéressait pas des masses, pour suivre le parcours de ma sœur. Donc j'ai arrêté et puis je suis partie travailler dans le luxe, parce que c'était ce qui m'attirait le plus, parce que c'était du beau.
Mais vous êtes rentrée par la petite porte ? Comment vous avez
fait ? Par la petite porte, tout à fait, à la vente. Oui. Parce qu'au moins, avec la passion pour la musique, j'avais des facilités en anglais. J'avais fait chinois en deuxième langue, juste histoire de choisir quelque chose qui était atypique, et puis pour faire l'original. Hein. Je vais pas mentir, c'était pas une passion pour la Chine. Donc voilà, et puis c'était par le CNED, à distance, donc je trouvais ça super bien de pas avoir de prof sur ma couenne. Et donc je me suis dit qu'il fallait bien en faire quelque chose, et puis ça allait me permettre le luxe de gagner mieux ma vie. Et donc c'est ce que j'ai fait, d'abord à la vente, et puis après monter un petit peu les échelons, prendre des postes de direction, voilà.
Bon, je pense qu'on va y revenir un petit peu quand même. On va maintenant aborder la manière dont vous avez vraiment commencé le métier.
Du coup, moi j'ai commencé, en fait ce que j'ai fait, après juste quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai fait un peu à la méthode ancienne. Aujourd'hui, je pense que ça ne marcherait plus. J'ai toqué aux portes. Donc j'avais en tête, j'avais 3 ou 4 agents, je savais que c'était là que je voulais travailler. Parce que j'aimais leur style, parce que j'aimais ce qu'ils faisaient, ce qu'ils représentaient. Du coup, c'est un matin, je me souviens très bien, c'était en mois de fin juillet. Donc en général, il n'y a plus grand monde dans les agences fin juillet. J'ai toqué chez Studio K.O. C'était encore rue Vieille du Temple.
Rue
Geoffroy-Langevin. Dans le Marais. Et du coup, là, quelqu'un m'ouvre la porte et je lui présente mon book. Et elle me dit quand même, faudrait plutôt envoyer par mail. Et là, je lui montre mon book, mais mon book était tellement grand que je lui dis, je peux pas vous l'envoyer par mail. Là, je l'ai et il faut que je vous le montre maintenant. Et là, du coup, elle a dit, bon, bah, ok, rentrez. On a fait l'entretien chez Studio K.O. Et 3 mois après, je bossais là-bas. Et ça a duré pendant pratiquement 5 années. Donc, c'est là que j'ai tout appris. C'est là que j'ai rencontré Soraya, du coup. Et vraiment, c'était des super expériences de 5 ans. Entre Marrakech et Paris, avec des projets divers, boutique Balmain, le début d'Ami aussi. Donc c'est marrant aussi de voir en parallèle comment d'autres créateurs ont évolué, parce que Ami, c'était sa première boutique. Aujourd'hui, Ami, c'est devenu ce que c'est. Donc c'est intéressant de voir comment ça a bougé en 10 ans, quoi. Mmh. Donc voilà.
Et vous, Soraya ? Alors, le luxe, on imagine les fringues, en tout cas.
Oui, c'est ça.
Beaucoup.
La mode.
Donc, vous êtes rentrée par là ?
Complètement, dans des grandes maisons, différents groupes, et notamment le dernier chez LVMH, Dior puis Vuitton, à la presse et puis après au marketing. Et par la suite, j'ai fait quelque chose complètement différent. J'ai une expérience rapide chez un lobbyiste politique par ma sœur qui m'a dit, écoute... Il y a une proposition de ce côté-là, j'ai détesté, évidemment. C'était en pleine campagne de François Hollande, j'ai trouvé ça... Oh, mon Dieu ! cruel et puis rempli de calculs. Enfin, ça me correspondait pas. Ouais. Mais j'ai eu la chance, par ce biais-là, de rencontrer Carl et Olivier de Studio K.O. Qui travaillait pour cette personne. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, quand je suis partie, ils m'ont fait une proposition de venir travailler pour eux. D'abord, à un poste qui était beaucoup plus administratif et sur le plus sur la planche financière et organisationnelle. Puis, je les ai assistés. Et puis, petit à petit, j'ai changé de fonction pour terminer associé et prendre la direction de la branche FFNI, c'est-à-dire mobilier déco.
D'accord.
Voilà, et donc c'est lors de cette expérience qui a duré un peu plus de 8 ans, oui, que j'ai rencontré Maxime.
Et du coup, vous êtes partis ensemble ou un peu en décalé ?
On est partis un peu en décalé, mais on a toujours suivi ce que chacun faisait l'autre. Voilà, exactement. Et j'ai d'abord eu des projets directement après Studio K.O. Et puis, juste après le Covid, on a décidé de monter cette agence tous les deux. On avait un ancien associé et on s'est séparés après le Covid parce qu'on avait des envies différentes. Et puis, on avait envie de monter une agence, on va vous en parler, mais avec des valeurs plus humaines, j'allais dire, et plus une vraie agence, comme on dit, c'est-à-dire avec des salariés, une vraie structure. C'était important pour nous, c'était des valeurs qu'on voulait.
Oui, d'avoir une assise.
Assise.
Et puis, il y avait un vrai besoin d'entrepreneuriat.
Oui,
pas seulement quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est très fort chez nous et que je reconnais à Maxime parce que d'un côté, c'est quand même prioritairement celui qui a fait le parcours d'archi d'intérieur traditionnel, etc. Mais il n'y a pas de notion d'ego surdimensionné de moi-même et je. Et c'était quand même une vraie envie d'entreprendre, d'emmener des gens avec nous. On a d'ailleurs notre chef d'agence, Josépha Barrois, qui est un élément très important aussi de l'agence, qu'on connaissait également, avec qui je collaborais beaucoup vers la fin chez Studio K.O. Et on avait envie d'emmener des gens avec nous.
Mais Studio K.O., ça a dû faire un vide pour eux, non ?
Ça s'est échelonné dans le temps.
Ça s'est échelonné dans le temps, et comme je me souviens ce qu'avait dit Carl, de toute façon, je le savais. Donc, donc du coup, on a toujours gardé des très bons rapports avec Carl et Olivier.
C'est super, c'est bien.
Et voilà, et c'était important.
Oui, ça s'est fait graduellement dans le temps, et puis dans une totale transparence, dans une totale honnêteté, avec des gens qui sont de toute façon d'une grande intelligence et d'une grande sensibilité, donc il n'y avait jamais eu le moindre souci.
Oui. Alors, ma question récurrente dans Comme d'Archi est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école, sachant que l'agence est... 5, 10 salariés, quelque chose
comme ça. Exactement. Nous, on y a un groupe de salariés de base, 6 personnes, et ensuite, ce sont des freelances qui sont
selon
très fidèles.
Selon les projets, oui. On a des freelances qui sont vraiment freelances. C'est-à-dire qu'ils viennent pour 3 semaines, 2 mois, selon les projets.
Et qui n'aspirent pas à être salariés.
C'est important. Vraiment pas l'être.
Alors, ce sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie d'école, j'imagine que les réponses vont être très différentes.
Pour moi, j'ai l'impression d'avoir été au-delà de ce que j'imaginais. Donc, tous les jours, c'est une satisfaction. J'ai pas un plan de carrière. Je suis pas quelqu'un qui a un plan de carrière qui se voit en haut d'Empire State Building dans 5 ans, quoi. Donc, je suis pas dans cette optique-là. Donc, c'est vrai que je suis toujours très heureux ce qui nous arrive. Les nouveaux projets qu'on signe, c'est toujours plus, en fait, pour moi. Donc, je suis plutôt dans cette positivité-là et pas dans « j'aimerais dans 5 ans ».
Ce n'est pas une ambition démesurée qui vous a fait
avancer. Pas une ambition démesurée et pourtant...
C'est la passion du projet.
C'est la passion du projet et dans ce monde-là, j'ai l'impression que des fois, je me sens un peu seul parce que tout le monde n'a pas cette vision des choses et est plutôt dans cette optique d'être number one. Il y a une vraie compétition quand même. Qu'on retrouve même dans les écoles, dès le départ, on nous met en compétition. Donc on est un peu éduqué à cette façon de voir les choses. Et du coup, moi, ça ne me correspondait pas. Donc c'est pour ça aussi que ça marche bien avec Soraya. Je pense qu'on a un peu cette même vision des choses. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que...
Bah, de toute façon, en l'occurrence, oui, la fin de la question à la sortie de l'école, moi, la sortie de l'école, elle s'est faite il y a tellement longtemps que, fatalement, j'ai un sentiment...
Vous vous souvenez pas ce que...
Ce dont j'avais envie, ouais. À la sortie de l'école. Bah déjà, moi, je me suis mariée hyper tôt, j'ai eu ma fille assez tôt aussi, donc mes envies... J'ai jamais été dans la projection non plus à hyper long terme. Je sais pas si ça rejoint les plaisirs de la table, mais un peu dans le plaisir immédiat. Le plaisir, c'est maintenant, tout de suite, le futur. Bon, voilà, même là, j'ai 45 ans, moi, je réalise même pas, quoi. Je prends ma fille dans mes bras, elle va avoir 20 ans. J'ai l'impression de dire qui es-tu, puisque ça, c'est, tout est passé trop vite.
Ça passe très, très
tellement
vite.
Dans l'instant présent. Et oui, bien au-delà, aujourd'hui, c'est bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Et en même temps, c'est... oui, comme il n'y a pas une ambition démesurée, on réalise pas jamais vraiment... Quand je m'occupe plus de la partie financière, vous voyez, là, la semaine dernière, j'ai été chez l'expert comptable. Ouais, il m'a annoncé le chiffre d'affaires que j'ai indiqué à Maxime. Et ouais, il faut 2 minutes pour se dire, ah, quand même. Ah ouais.
Ouais.
Ah ouais, tout de même. Mais c'est, je pense que c'est ce côté, c'est pas naïf, mais ce côté... je sais pas, innocent aussi, il faut pas non plus...
Peut-être, non, pas innocent, mais on va dire...
Bah, il y a pas de calcul,
pas.
Ouais, on réalise,
on ne réalise pas.
Pas
réellement.
Puis il y a un vrai plaisir tous les jours déjà de travailler avec son meilleur ami.
C'est peut-être ce détachement qui vous permet d'être, de vous consacrer complètement à la matière des projets, enfin au projet en lui-même.
Oui, peut-être on est plus naturel et c'est peut-être pour ça que les clients qu'on a aujourd'hui viennent nous voir, parce qu'on a une, on va dire les choses comme on le pense déjà, et ils aiment assez, parce que c'est rare qu'on leur dise les choses. Donc du coup finalement ça les choque sur le premier abord, mais après ils réfléchissent et finalement
on arrive à
c'est constructif, exactement.
Alors on a parlé de vous, maintenant vous allez nous raconter l'histoire des projets de l'agence.
Bah, les projets, bah, forcément, on va parler vrai aussi. Ils arrivent par eux-mêmes. On n'a pas, y a pas de notion de démarchage vu le type de projet qu'on fait. C'est quand même un milieu, c'est le luxe. C'est
donc restaurant, hôtel, beaucoup et résidence privée. On le rappelle.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Que ce soit des établissements recevant du public et ERP, pour simplifier. Mais ça, les projets arrivent. Le tout premier, ça a été l'hôtel Florida, qui va sortir seulement maintenant. Mais historiquement, vu le temps que peut prendre les études et les travaux pour un hôtel, il est arrivé juste après.
Combien d'étoiles?
4.
4 étoiles.
4 étoiles. Mais c'est vrai que c'est un peu le projet qui, pour nous, représente cette nouvelle agence qu'on a créée. Donc, il est très important pour nous. On a été loin dans le détail.
Il se situe où?
Il se situe dans le 8e, à côté de la Madeleine.
Oui, au 12 boulevard Malesherbes.
Et on a voulu, pour cet hôtel, que chaque chambre soit différente. Alors ça, c'est un challenge. Il y a 39 chambres, mais c'est un gros, gros boulot.
Et comment c'est arrivé dans cette volonté?
De faire 39 chambres différentes?
Oui.
Bah parce que déjà, on a la chance d'avoir un client qui est très chouette, très respectueux, qui nous a laissé vraiment...
libre, hein, ouais, libre à la créativité, libre. À la création.
Puis qui avait peut-être un petit peu des goûts similaires aux nôtres. Hein. On ne l'a pas non plus bousculé, on avait des références communes.
Mais on se comprenait sans trop parler. Juste avec des regards, tout ça, on a appris à le comprendre.
Et c'est un peu comme dans les relais châteaux, les chambres portent des prénoms différents, ça va être la chambre
Mathilde. On n'a pas été jusque-là, mais on aurait presque pu.
On aurait presque pu, mais il y a une suite, la suite Florida, qui est un peu une suite emblématique, où on s'est peut-être un petit peu plus lâché que sur les autres. Mais en ce qui concerne les projets, on a quand même eu beaucoup de chance à chaque fois de rencontrer des gens chouettes, qui nous ont laissé à chaque fois très libres. Le restaurant La Môme à Monaco, on est parti dans cette idée avec en référence le film La main au collet. Ils nous ont laissé dérouler le fil.
Exactement.
Il y a eu la pâtisserie.
La pâtisserie de Cyril Lignac aussi. On a dû revoir un peu le concept et comme c'était à Saint-Tropez, fallait aussi s'adapter un peu à la culture de la région. C'était dans une maison et c'était pas une boutique au centre-ville. Donc on a revu les matériaux, quelque chose de plus rustique, de plus adapté. Encore aujourd'hui, là, on travaille encore avec Cyril sur des nouvelles ouvertures. Donc on développe un peu ce concept
Qui se situe dans le Midi ou à Paris, plutôt? Non.
Une seconde à Saint-Tropez, oui, effectivement. Oui. Il a le souhait de s'implanter un petit peu plus en ville. Mm-hmm. Et ensuite, peut-être, oui, effectivement, son réseau de boutiques parisiens. Voilà, il a le souhait un petit peu de revoir et de continuer ce concept. On a aussi eu des particuliers hein, qui nous ont fait confiance. Après, c'est des milieux où, effectivement, on a eu des clients qui n'ont pas souhaité que leur projet paraisse dans la presse. En France, on en parlait en off avant de commencer l'émission. On n'a pas forcément envie de montrer sa résidence principale.
Dans les magazines
oui,
de
voilà.
Déco.
En fait, je pense que l'époque n'est pas propice
voilà.
à montrer... Quand on a les moyens de...
C'est très français,
voilà.
De toute façon,
complètement.
De pas afficher sa richesse.
Quel dommage, parce que, en fait, je trouve que ce goût français est inégalé.
En tout cas, il est très fort.
Oui,
voilà.
Il est très fort, et c'est vrai qu'on en parlait il n'y a pas longtemps. Nous, on ne se reconnaissait pas dans le côté minimaliste. Il y a beaucoup eu de minimalisme là, récemment. J'ai l'impression qu'on en sort un peu.
Et pourquoi ne pas tirer vers le haut? Ce sont des tas de métiers formidables qui risquent de disparaître.
Ah oui, ça, là, c'est relié justement aussi, parlons-en, enfin, à la conjoncture économique.
Oui.
Où maintenant, même si on est dans le milieu du luxe, on a des clients qui sont restreints dans leur budget, ou en tout cas qui vont faire attention. C'est sûr que là, aujourd'hui, avoir la chance de faire appel à des compagnons du devoir, même si on est plutôt dans la tendance maximaliste, c'est parfois un peu compliqué.
On ne peut pas toujours.
On
aimerait beaucoup le faire à chaque fois, mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours. Avec des particuliers, on arrive quand même à faire travailler des artisans locaux.
À Abidjan.
Alors Abidjan, c'est un projet vraiment particulier parce que tout a été pratiquement fait sur place. C'est un projet qui a commencé, qui a duré aussi 3 ans un peu.
Quel est le nom de... C'est un hôtel.
Maison Palmier.
Maison Palmier.
Et c'est vrai que ce sont des bois locaux, ce sont des artisans locaux.
Ont été formés à certaines techniques.
Formés, par exemple, les terrazzos au sol, ils ont été formés sur place pendant 2 ans. Parce qu'il n'y avait pas de personnes qui connaissaient cette technique. Même les patines au mur, ça c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas. Donc tout ça, c'est très intéressant parce que les gens étaient formés sur place. Donc ça a apporté quelque chose aussi à Abidjan. Donc ça, c'était chouette.
Ce qui est un peu, enfin, vous me dites ce que vous en pensez. Un peu ridicule dans ces démarches de absolument, enfin, de gommer, on va dire, ces savoir-faire qui sont peut-être synonymes d'un passé qu'une certaine génération veut absolument oublier ou faire oublier. C'est dans toute époque, il y a du bon, il y a du moins bon. Et là, ce sont des savoir-faire qui partent et des savoir-faire qui sont pérennes et des savoir-faire qui sont une réponse aussi à l'écologie et à la durabilité du projet.
Mais là, en l'occurrence, c'est pas tant quelque chose de générationnel parce que nos clients, déjà, sont clairement des...
Oui.
Tant pis, je vais dire... Des boomers, non
ouais.
Pas du tout.
Oui.
Pas du tout. Ce sont des clients qui ont un certain âge. Et il y a plutôt le côté de la mondialisation qui intervient là-dedans. C'est-à-dire que aujourd'hui, et quand même, on a eu de la chance d'avoir un client qui était ouvert à faire des choses avec des locaux. Mais sinon, il y a une volonté. Vous voyez, par exemple, il y a tout un tas de chaînes, de restaurants, etc., qui vont ouvrir, que ce soit exactement les mêmes, qu'on soit à Paris, dans les Émirats, en Espagne et aux États-Unis, où ce sont des concepts qui se déclinent à l'infini parce qu'on est dans la mondialisation, parce que justement, plutôt, on va dire, le côté occidental de la vision de l'architecture, c'est comme si elle pouvait s'exporter, c'était l'essence du bon goût.
Alors que c'est plus la marque qui est travaillée que l'objet en lui-même.
Voilà,
exactement.
Et on prend pas forcément en compte l'environnement dans lequel on se trouve.
Oui.
C'est peut-être un petit peu dommage.
Oui.
Oui, puis en plus, on est face à des réalités un peu choquantes. C'est vrai que moi, quand j'ai vu que finalement, d'acheter du chêne aux États-Unis revenait moins cher que de l'acheter en France, même avec le transport. Donc, on se retrouve face à ce genre de choses où on est un peu désemparé. On ne sait plus comment vraiment faire face à ça et à l'écologie, du coup.
Ouais. Oui, parce qu'en fait, dans ce que vous proposez, c'est pérenne. Vous
c'est ce qu'on
pas
souhaite.
Un
on souhaite faire
pour
un
5 ans. Vous le faites pour.
C'est ce qu'on souhaite au moins. C'est ce qu'on souhaite faire.
Oui.
On tâche de le faire. Oui, exactement. Même dans les choix de projet. Finalement, Même si c'est toujours parce qu'il y a une réalité économique hein, et la survie de l'agence qui est aussi une réalité. Mais dans les choix de projet, on essaie de faire en sorte d'aller plus dans le décor un peu plus patrimonial avec des références peut-être un petit peu plus vintage, être dans l'art déco, rétro, pour que ça puisse avoir une durabilité dans le temps, que ce soit un petit peu plus indémodable.
Alors justement, le Florida et cette variabilité dans les chambres, il n'y a pas un concept de chambre, mais une déclinaison. Vous êtes parti sur quel imaginaire ?
En fait, déjà, on a fait des recherches sur le 12 avenue Malesherbes et on a découvert que Fitzgerald et sa femme avaient séjourné dans cet hôtel au moment de la sortie du livre Gatsby. Déjà, ça nous a fait une belle base et une belle histoire à raconter. On a regardé Gatsby, l'original, le film original. Ça nous a donné beaucoup d'inspiration. Ensuite, on est parti sur une superposition d'époque. Parce que ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait un peu à l'image d'une maison de famille, un peu plusieurs époques qui superposent. Alors les années 30, c'était la base. Et puis après, les années 60, les années 80, on serait venu rajouter des éléments un peu au fur et à mesure des époques et que cet hôtel ait toujours existé, que ce ne soit pas une pure création d'aujourd'hui. C'était plutôt notre idée de base.
Oui, comme si c'était une maison familiale, c'était le souhait du client, une maison familiale qui s'était transformée. Donc on a essayé...
C'est un voyage dans le temps.
De faire un voyage dans le temps, parce que évidemment, la rénovation, quand on casse pas mal de choses, étant donné le côté vétuste de certains éléments du bâtiment, il a fallu quand même refaire beaucoup de choses et refaire le layout des pièces. Mais en tout cas, essayer de donner cette impression que ça avait toujours été là, ouais. Mmh. Avec beaucoup de travail de Chine.
Alors peut-être que le cinéma va s'emparer de ces ambiances différentes. Ce serait formidable que ça soit un lieu de tournage.
Surtout qu'on adore le cinéma. Et souvent, on a des inspirations qui viennent du cinéma. Et je trouve que c'est vrai que cet hôtel pourrait avoir, en tout cas pourrait donner envie à certains réalisateurs de se projeter dans une époque. Mmh. Et c'est vrai que ça serait intéressant.
Alors, la clientèle ciblée, c'est surtout le tourisme, j'imagine, là où il est situé.
Oui.
Ouais. Du coup, ils viennent chercher notre histoire aussi.
Oui, viennent chercher l'histoire. C'est quand même un projet qui, de façon identitairement, qui est très parisien. Qui est très parisien, qui est très ancré. D'ailleurs, on a même, quand on a chiné les pièces vintage, on a pris pour la plupart des designers français, même si c'était ou sinon des pièces françaises. Voilà, c'était un choix, même dans les dessins.
Oui, et puis c'est vrai qu'on a fait déjà quelques visites et on a eu des retours où les gens se sentent bien et nous disent « Ah, j'ai l'impression de connaître cet endroit ou d'avoir déjà dormi dans une chambre ». Comme ça, et en même temps, c'est très particulier. Donc, c'est vrai que c'est un compliment pour nous, parce que, en tout cas, ça, c'est très positif.
Et puis, il y a tellement de projets d'hôtel que c'est à la fois difficile.
Un challenge de se différencier.
Exactement, parce que, bon, en plus, là, avant l'échéance des Jeux Olympiques, oui, il y a eu du projet qui est sorti.
Oui. Et puis, le storytelling, maintenant, c'est important. Alors, d'autres projets ? Dans les cartons ou
oui,
en
plusieurs.
Gestation
Un hôtel 5 étoiles, un petit hôtel de 11 chambres, très charmant, dans une maison d'époque à Bastia.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'opposé de Florida. On est dans une petite maison, il y a à peine 11 chambres. On a vue sur la mer. Donc ça, c'est vraiment chouette de pouvoir, en tout cas, avoir des projets aussi différents les uns des autres.
Oui. On a un restaurant Ajaccio.
Ajaccio aussi, un restaurant emblématique d'Ajaccio. Alors là, ce qui est marrant, c'est que le restaurant a déjà été refait il n'y a pas très longtemps. Et là, on nous demande de retrouver son âme.
Ah.
Donc du coup, il faut revenir dans le passé. Et je pense que c'est un peu l'état d'esprit des gens en ce moment. C'est ce que ça représente un peu la nostalgie que beaucoup de monde a. Et nous, on essaie de retrouver ce passé avec, ouais. avec cette petite touch qu'on apporte en plus, je pense.
Oui, parce que vous êtes des créatifs à la base.
Oui. Et on a également des projets plus atypiques. On a un client qui nous a confié un projet de chicha. à Paris. Et ça a été très challengeant de l'accepter parce que, évidemment, en France, contrairement à tout un tas de pays, la chicha, c'est très péjoratif.
Oui, tout à fait. Hein,
c'est très péjoratif. Là, il a une envie de quelque chose, au contraire, très luxe. Lui, c'est un passionné de chicha, qui est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui a envie de redonner.
Demande.
Ah, il y a une réelle demande.
Une réelle demande des étrangers qui viennent à Paris, qui ne trouvent pas de chicha bar. Un peu plus haut de gamme, ou en tout cas où il y a un vrai concept.
Voilà, où on peut y aller de manière sereine.
Exactement. Et puis être dans un endroit quand même chic, un peu luxueux, où on va avoir une nourriture qui sera servie de qualité et pas du snacking. Donc voilà,
ça, c'est intéressant.
Va pas trop tarder.
On s'est un peu plongé dedans, j'ai été fumer ma première chicha du coup. Ça, c'était intéressant, mais c'est ce qui a aussi fait que notre métier est chouette, quoi. C'est qu'on apprend plein de choses, on a des projets tellement à l'opposé et différents.
Un glacier,
oui, on fait un glacier.
Des pâtisseries, des appartements privés.
Du plaisir.
Ouais, il y a pas mal de choses.
Et du coup, ce terrain de jeu du plaisir, il reste assez vivace finalement. Malgré cette conjoncture qui est très triste, enfin qui est appauvrissante, on va dire.
On va dire qu'il faut se challenger tous les jours, et il faut surtout pas tomber dans ce pessimisme qui pourrait nous rattraper très très vite en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de gens, si on les écoute trop, on pourrait tomber là-dedans. Donc non, il faut tous les jours se recadrer et dire que non, il y a encore plein de choses à faire.
Que nous sommes là et que nous sommes vivants.
Exactement,
ah ouais.
Voilà.
Oui. Donc, projet emblématique, je pense que c'est le Florida.
Oui.
Hein, en ce moment. L'équipe, on en a parlé. Quel éclairage donneriez-vous à tout à chacun, justement, pour appréhender le monde dans lequel nous vivons? Alors, ne pas écouter, parce que vous avez d'autres... L'architecte est amené, ou l'architecte d'intérieur, vous projetez sur des temps quand même assez distendus.
Oui.
Surtout en ce moment où il y a un moment de creux qui est pas très propice. Hein. On le sait bien, le monde de l'immobilier vit des moments difficiles. Donc ça gèle un petit peu ce qui est en cours. Justement, comment vous, quand vous vous levez le matin, vous vous dites faut pas écouter les oiseaux de mauvaise augure, mais encore retrouver sa palette colorée, les formes.
Faut essayer de garder la pitch, hein, comme on se dit à chaque fois. Pas tous les jours non plus hyper facile. On a chacun ses petites méthodes. Moi, à titre personnel, j'ai tendance à me recentrer un petit peu sur moi-même de bon matin. Je change ma routine. Hein. C'est sûr qu'il y a des périodes où la première chose que je faisais, c'était écouter France Info. Là, j'écoute plus.
Ouais.
Parce que sinon,
surtout pas.
Non, faut pas.
Surtout pas, parce que sinon on a l'impression que tout va mal. Et puis, on essaie de se recentrer un petit peu sur nous, sur l'agence. Voilà, par exemple.
Déjà, on est deux.
Ouais, ça change tout.
C'est très important pour nous. Je crois que j'aurais jamais pu faire quelque chose seul. Enfin,
moi, j'aurais pas tenu si Maxime n'était pas là. De toute façon, ça m'aurait plus intéressé.
Il y a plein d'épreuves à passer. Et quand on est deux, il y en a toujours un qui remonte l'autre, etc. Donc, c'est important. Enfin, c'est une vraie collaboration, comme on dit, au travail et dans la vie privée. Enfin, c'est important. Et puis, oui, comme tu dis, la routine du matin, elle est très importante. Je pense qu'elle... Elle est essentielle même pour que la journée se passe bien. Le sport, moi je vais souvent au sport.
Exactement.
Et ça défoule. Ça permet aussi de toujours garder un rythme régulier dans ce qu'on fait, de ne pas rester chez soi, de programmer des choses, des visites, des restos, comme on dit.
Puis on se triture un peu le cerveau, hein, même avec Josépha, avec la chef d'agence. Des fois, on se recadre nous-mêmes, entre nous, en disant non, là, on n'a pas été top positif là. on a un peu sombré là. Là,
voilà.
Aujourd'hui, on a un peu été dans les tréfonds du
mal-être. Il y a des jours comme ça.
Ouais, des jours qui sont plus compliqués que d'autres. En plus, on doit affronter différents problèmes sur un chantier, par exemple. Un client qui, lui non plus, visiblement, ce matin-là, n'aura pas eu la pêche et aura été un petit peu moins agréable qu'un autre jour.
Oui, son regard aura changé la couleur.
Voilà. On se recadre aussi, mais ce travail en équipe, il est essentiel.
Essentiel.
Et travailler dans l'univers du luxe, il faut aussi que nos auditeurs comprennent qu'il y a énormément d'exigences derrière.
Énormément d'exigences, c'est sûr.
Et donc, il faut être capable
de... Il faut satisfaire tout le monde et il faut satisfaire soi-même aussi. Il faut qu'on soit un peu fier de nos projets. Mmh. Et ça, voilà, c'est un travail de longue haleine sur des projets qui, comme on le voit, durent souvent 2 ans. C'est des longs projets.
Et puis, il y a aussi quelque chose qui fait qu'on se sent bien et qui est quelque chose de non négligeable, sont nos locaux. On a fait des bureaux quand même un petit peu plus proches d'un langage...
Domestique,
exactement.
Moi, ça me fait penser à un atelier d'artiste.
Oui, aussi, tout à fait.
C'est vrai, c'est très lumineux.
On peut y vivre.
Oui.
À chaque fois qu'une nouvelle personne vient, elle se sent tout de suite à l'aise, au point des fois de ne pas repartir. Oui. C'est vrai qu'on a des clients qui restent très souvent, très longtemps en salle de réunion. Finalement, ils se trouvent plutôt pas mal. Et finalement, ils reviennent.
Oui.
Et parfois, c'est dur de faire venir nos clients dans le 11e arrondissement. Ils ont comme une frontière entre le 11e et, je dirais, le 8, le 6, le 7.
Oui.
Où c'est plutôt leur quartier de prédilection.
On arrive à détruire la frontière.
Mais on arrive à casser cette frontière, du coup.
Oui, et puis culturellement, c'est quand même... Vous êtes dans le quartier emblématique des architectes, des architectes en intérieur, des tapissiers.
Toute la rue Oberkampf. Du Faubourg, où il y a encore quelques tapissiers qui survivent.
Oui. Ouais.
Voilà, donc c'est un chouette quartier.
Comment imaginez-vous le monde de demain ? Soit pour vous, soit de manière plus générale, soit...
Bah, les jeunes, ils sont chouettes, hein, ils sont pleins de ressources. Hein, on a toujours l'impression que...
ils ont un caractère très affirmé.
C'était mieux avant, etc. Bon, de toute façon, ça s'est passé à chaque fois. Ça se passe à chaque fois, c'est redondant. Le rock, les parents, ils trouvaient ça nul. Là, le rap, tout le monde trouve que c'est à vomir.
C'est un peu passé maintenant, le rap.
Non, il faut. Non. Ça, quand même, ça reste toujours présent. Mais bon, comme tout, ça s'essoufflera sans doute. Mais voyez, par exemple, il y a des tendances sur TikTok autour des livres, BookTok, etc. Donc, il y a un retour à la presse, il y a un retour aux livres, il y a un retour à certaines choses. Ils sont quand même pleins de ressources. Là, les heures, elles sont un peu sombres, mais...
Oui, puis je pense aussi que c'est à nous aussi un peu de nous adapter.
Ouais, c'est
sûr. On a beaucoup parlé, c'est pas facile évidemment, des fois on n'a pas envie, clairement on n'a pas envie de se retrouver dans un monde numérique et de créer notre agence en 3D et que les gens se baladent dedans. Tout ça, c'est difficile forcément de s'y projeter.
Surtout que votre travail c'est vraiment la matière et la richesse de la matière.
Exactement, et pourtant il faut quand même s'ouvrir à ces nouvelles technologies et puis essayer de comprendre en fait, comprendre pour s'adapter et être épanoui dans le monde dans lequel on vit et le monde de demain.
Mais on peut aussi leur apporter des choses pour que...
Complètement, on se complète.
Toutes les richesses dont nous on a pu bénéficier puissent aussi perdurer.
Complètement.
Bien sûr.
Bah, on le voit, malgré tout, à l'agence, on a plein de beaux bouquins. On tente de quand même continuer à faire certaines recherches dans les livres et pas uniquement que sur le numérique. Mais finalement, il y a des choses qui se passent quand même. On a notamment une personne à l'agence, Alex, qui fait des super croquis, qui dessine hyper bien et qui est encore dans le crayon, dans le papier.
Qui est jeune ?
Oui. Ouais, bah, ils sont quand même plutôt tous jeunes, ils ont entre 24 et 31 ans. Donc, on n'est pas.
Donc, la relève est là.
Ah, clairement.
Oui.
Bien sûr.
Et en plus, nous, on travaille vraiment dans ce partage, on fait beaucoup de workshops. Donc, toute la créa ne vient pas forcément que de nous. Au contraire.
Ouais, ça aussi, il faut rendre à César ce qui appartient à César.
C'est une agence. On représente LATQ. Et on essaie d'avoir une identité, mais c'est ensemble qu'on le fait, et pas seulement.
Ouais, parce qu'il y a une DA de départ.
Derrière notre bureau.
Il y a une DA de départ, mais après, c'est un travail d'équipe, tout le monde l'enrichit. On a une équipe qui est super chouette, qui bosse hyper bien, qui a beaucoup d'idées. Non, c'est vraiment.
Tout ne peut pas venir d'une seule personne.
Mais non.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant,
ça,
je trouve. Oui. Mais
il ne l'est pas forcément.
C'était...
dit.
Exactement. Et là, pour le coup, les vieux dinosaures, entre guillemets, qui étaient dans un ego, moi, c'est ce que je trouve très chouette, c'est qu'on peut faire autrement. Et plutôt que de tirer de un peu comme des presses citrons,
l'image est bien.
Et voilà. Et bien, tout le monde peut s'épanouir. Et plus on est épanoui, plus ce travail d'équipe est prolifique, en fait.
Ça, c'est sûr. Non, on parlera pas de nous à la troisième personne.
Ouais.
Non. ça ira.
Bon, donc ça peut être une agence sympa pour aller bosser.
Ah bah on espère, on peut toujours s'améliorer, mais en tout cas, on se donne du mal.
Ouais.
On rate sûrement des choses, mais on se donne du mal.
Quel conseil, justement, donneriez-vous aux étudiants en architecture d'intérieur aujourd'hui ?
De ne pas aller trop vite, je pense. C'est-à-dire d'apprendre des autres et des autres agences, de rester quand même quelques années et pas vouloir tout de suite monter de son agence. Je pense que ça, c'est important. En plus, vu les circonstances dans lesquelles les circonstances qu'on traverse en ce moment, je pense que c'est important d'apprendre et de pas vouloir tout de suite faire les choses seules, voilà.
Bah, de toute façon, clairement, pour ma part, François, tu me rejoins aussi, puisque de toute façon, c'est la seule agence qu'on ait connue. Mais s'il n'y avait pas eu cette expérience Studio KO, déjà, moi, je ne serais pas en architecture, tout simplement, et je n'aurais pas autant appris. Ouais. C'est quand même bien. Ça fait peut-être conseil de vieux con, mais parce qu'on veut aller vite, et après tout, si les gens vont vite, c'est pas grave, on peut se gameler et puis se reprendre. Mais quelques années d'expérience, c'est chouette.
Ça permet d'avoir des vraies références. C'est pour ça que je leur dis que c'est important de choisir sa première agence. C'est très important. Elle va vous représenter jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment un premier conseil.
Puis il faut se cultiver, quoi. Là, quand même, parfois, il ne faut pas généraliser. Il y a des gens très étonnants. Mais des fois, il y a un petit déficit de culture qui est un petit peu dommageable, et c'est dommage.
Oui, et puis avec des associations un peu saugrenues. Donc, moi, j'appelle ça la génération Game of Thrones. Parce que, en tant qu'historien, quand on voit des compilations comme ça de références historiques mélangées dans un blougi-boulga, ceci étant, c'est très créatif. Mais voilà.
Oui,
c'est sûr.
Et un chat est un chat.
Voilà, faut regarder différents films, faut lire différents bouquins et puis aller voir les expos. On a plein d'anecdotes comme ça. Par exemple, quand on parle, je sais pas, du musée de la chasse, du musée Bourdin, il y en a. Mais
on ne les connaissent même pas.
Qu'est-ce que c'est ?
Ouais.
Et c'est un petit peu dommage. On est à Paris, en plus, on a quand même vachement de chance par rapport à ça. Donc voilà, petit conseil.
Un mot de la fin. Un message que
garder espoir.
Ouais, garder la pêche.
Surtout, garder espoir.
Tout va bien se passer.
Voilà, on peut toujours rebondir.
S'accrocher à sa séance de sport le matin.
Exactement, très important.
Exactement. Et puis de la bienveillance. Hein,
ça, ah, c'est vrai aussi.
C'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait beaucoup de bien.
Ouais.
Voilà.
Bon, ça, c'est une belle et bonne parole. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir. Merci encore.
Merci.
Avec plaisir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.